Mikes pastil.
Mikes pastil. Oh, mikes qui se passe.
Des nouvelles du monde.
Monsieur, des informations, il y en a plein, hein. Par exemple, bon, il y en a plein, hein. Les informations, ça manque pas, mais il faut choisir, hein, pour les dire.
Revue de presse, de médias libres ou pas, interview, communiqué. Les nouvelles du monde, c'est avant tout un regard critique sur l'actualité, du local à l'international.
Le problème de l'action intellectuelle est difficile, en grande partie à cause des journalistes.
Les nouvelles du monde, c'est tous les mardis et jeudis à 12h30 sur Radio Escapade, rediffusion à 19h30.
Des nouvelles du monde.
Eh bien, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ces nouvelles du monde, ravi de vous retrouver après une bonne pause de 15 jours pour cause de formation. Mais nous sommes bien à Radio Escapade, nous sommes le mardi 3 décembre et j'ai essayé, je dis bien essayé, de vous faire une petite sélection d'informations qui ne traitent pas du phénomène du moment de la motion de censure et du charivari qui risque de s'en suivre au gouvernement si on a bien un gouvernement dans les prochaines semaines et mois. On va continuer à parler évidemment d'environnement, de services publics, de ce qui se passe un petit peu au Moyen-Orient du côté de la Syrie aussi dont j'ai entendu parler il y a peu puisque ça remue un petit peu dans tous les sens. Tout d'abord, ce chiffre qui est tombé suite à une étude de l'UFC Que Choisir, une étude qui est sortie ce 26 novembre, dans laquelle on apprend que 10 millions de Français sont privés de transports en commun accessibles. Et vous faites peut-être et certainement partie du lot, vu que ça concerne bien évidemment une partie des territoires ruraux. Alors évidemment, on nous encourage à laisser la voiture pour les transports en commun, mais encore faut-il y avoir accès. C'est donc cette association de consommateurs, UFC Que Choisir, qui a réalisé une cartographie de la réalité de cette accessibilité aux transports en commun en France métropolitaine, on parle. Les travaux mettent donc en évidence que 17,4% de la population n'a aucun accès à un arrêt de transport en commun à moins de 10 minutes à pied, ce qui est une proportion qui grimpe à 85% si on parle des voies de chemin de fer. La carte met bien en évidence des importantes inégalités au niveau du territoire. Le quart sud-sud-ouest du pays se montre particulièrement mal desservi, avec notamment le Gers, la Lozère ou la Dordogne. D'ailleurs, on apprend dans cet article que la Lozère est dans le sud-ouest de la France. C'est comme ça. Plus de 60% des habitants de ces trois départements, par exemple, n'ont accès à aucun arrêt de transport en commun à moins de 10 minutes à pied. Et je devine que c'est très certainement aussi votre cas. Si près de la moitié des Français peuvent donc en théorie accéder à une gare en moins de 10 minutes à vélo, les infrastructures cyclables sont trop rares et l'intermodalité, c'est-à-dire la possibilité justement de prendre plusieurs transports en commun qui s'enchaînent à peu près normalement, tout cela est insuffisamment favorisé, estime UFC Que Choisir, qui pointe aussi le problème du financement des transports publics, puisque ce financement dépend grandement de l'implantation géographique des entreprises. Et oui, et c'est ça qui laisse de nombreuses collectivités périurbaines et rurales. Un choc d'offres est nécessaire pour rendre les transports publics accessibles et attractifs, y compris au-delà des zones urbaines, considère ainsi l'UFC Que Choisir, qui a lancé avec ses associations locales une campagne nationale de terrain qui vise à mobiliser justement les habitants de ces zones blanches.
Ah ouais, carrément.
Qu'est-ce qu'ils foutent en milieu rural aussi ?
Et tiens, puisqu'on parlait du rôle des grandes entreprises et des transports, une petite info qui résonne assez ironiquement avec ces derniers points, c'est dans la dépêche du midi de ce week-end, de ce samedi, que le président de la fondation Pierre Fabre menaçait de remettre en cause le développement local de son entreprise si le chantier de l'A69 Toulouse-Castres devait s'arrêter. Le collectif La Voie est libre, les opposants à cette autoroute se disent atterrés par ces menaces du principal employeur du sud du Tarn, puisque le groupe Pierre Fabre a 5300 salariés en France et 3 milliards d'euros environ de chiffre d'affaires, eh bien menace clairement donc par la voix de son dirigeant de remettre en cause le développement local de l'entreprise en cas donc d'arrêt du chantier de la 69. Le dirigeant de Pierre Fabre s'appelle Pierre-Yves Revol, il est président de la fondation Pierre Fabre. Il est aussi d'ailleurs président du Castres Olympique, un club de rugby. Il déclare dans le journal régional donc qu'ils ne pourront pas accepter de supporter tous les inconvénients et accessoirement les surcoûts de l'enclavement. Nous remettrons en cause notre développement local au profit de zones plus urbaines et mieux desservies. Et il ajoute, l'entreprise n'aura aucune leçon à recevoir en matière d'aménagement du territoire. Lorsque, si ce projet d'autoroute est abandonné, elle se déportera vers d'autres grands centres urbains. Dans un communiqué qui a été envoyé à la suite de cette interview à France Bleu Occitanie, le collectif La Voix est libre se dit donc atterré et parle de menaces de représailles qui visent à mettre la pression sur la justice en instrumentalisant la vie de salariés. Et le collectif dénonce des propos irresponsables qui sont un chantage à l'emploi gravissime et indigne. S'il parle de tentative de pression sur la justice, c'est bien parce qu'en ce moment, le tribunal administratif de Toulouse est en train de travailler pour rendre une décision sur une possible annulation de ce chantier d'autoroute. Chantier qui était supposé relier Castres à Toulouse. Le rendu de cette décision se fera dans quelques jours et la justice examinait notamment le recours en annulation de l'autorisation environnementale de la 69 et de la 680. Il l'a examiné lundi dernier, le 25 novembre. Le tribunal devrait rendre sa décision autour du 9 de ce mois de décembre. La rapporteuse publique, dont les avis sont souvent suivis d'ailleurs, s'est prononcée, elle, pour une annulation des autorisations environnementales. Et selon elle, il n'y a pas d'enclavement du sud du Tarn. Oui, ils ne sont quand même pas au milieu de la forêt amazonienne. Le groupe Pierre Fabre bénéficie déjà d'une très belle route nationale. Pour le collectif La Voie est libre, justement, cette A69 n'aurait aucune incidence positive sur l'économie et l'emploi du bassin Castres-Mazamet, puisque les études montrent au contraire qu'il y aurait un phénomène d'aspiration de l'activité économique vers la métropole toulousaine. Le collectif ajoute enfin que le projet ne répond à aucun intérêt public majeur et qu'il n'est que l'aboutissement de 30 ans de pression et de chantage exercés par les laboratoires Pierre Fabre, dont il sert les seuls intérêts. Ce n'est pas une autoroute qui rend un territoire attractif, mais la dynamique du territoire qui attire les emplois. Et là aussi, on verra si l'activité attire du monde ou pas. En tout cas, changement de programme pour la première mine de lithium qui était prévue en France, qui se tiendra normalement dans l'Allier. Elle pourrait finalement être exploitée pendant 50 ans et non pas les 25 comme prévu initialement. Ce projet de mine de lithium, il est porté par le groupe Imerys, on est dans le département de l'Allier, et il est aussi très contesté localement. Le projet s'appelle EMILI, ça veut dire exploitation de mica lithinifère, et est censé produire à partir de 2028 de l'hydroxyde de lithium, un composant utile et même essentiel pour équiper 700 000 batteries de voitures électriques. Ce projet coûterait environ 1 milliard d'euros d'investissement. Et donc, il prévoyait à la base d'exploiter la mine pendant 25 ans. Eh bien, un avis de l'autorité environnementale qui a été publié le 21 novembre dernier relève qu'une demande de concession minière de 50 ans sera déposée l'année prochaine. La durée d'exploitation pourrait donc être augmentée de 25 ans compte tenu des résultats des derniers sondages qui ont conclu à des capacités plus importantes du gisement. C'est en fonction des estimations des ressources souterraines que ce délai a été doublé. Dans l'avis donc, de l'autorité environnementale, il y est écrit que l'analyse du porteur de projet présente des insuffisances et des lacunes, notamment concernant les nuisances environnementales et sanitaires potentielles du projet. Comme par hasard, c'est sur ces domaines-là qu'il y a des lacunes. Le projet, vous l'aurez compris, est très contesté localement. Le débat public a duré 4 mois, réunissant plus de 3000 participants à 12 réunions publiques. Mais le gouvernement, lui, tient dur comme fer à ce projet. Et ainsi, sur demande de plusieurs maires et présidents de communautés de communes de l'Allier, eh bien, le gouvernement avait classé le projet d'intérêt national majeur par un décret du 7 juillet. C'était le jour du second tour des élections législatives anticipées. Il n'avait même pas attendu d'ailleurs la fin du débat public qui devait s'arrêter le 31 juillet. Et ce statut, donc intérêt national majeur, qui vient d'être créé par la loi Industrie d'octobre 2023, permet en effet d'accélérer les procédures et d'accéder à de nombreuses dérogations administratives. On s'intéresse maintenant à l'avenir du loup en Europe. Est-il menacé ? C'est en tout cas ce que dénoncent de nombreuses ONG, alors que le statut de l'espèce fait aujourd'hui l'objet d'un examen à Strasbourg par les pays signataires de la Convention de Berne. Sous la pression des agriculteurs, beaucoup de pays européens penchent en effet pour faciliter l'abattage de ce canidé, dont le nombre a augmenté rapidement ces dernières années. Le comité permanent de la Convention de Berne donc, a pour but d'assurer la protection de la faune et il envisage en effet de rétrograder cette espèce du loup de la catégorie strictement protégée à protégée. C'est une proposition d'amendement qui a été soumise fin septembre par l'Union européenne. Le directeur des programmes WWF France, Yann Loras, récapitule ainsi pour l'AFP qu'on ne pourra donc même pas se mettre à chasser le loup. On ne pourra pas se mettre, dit-il, à chasser le loup sans aucun cadre, mais ce déclassement permettrait de généraliser la possibilité de tirer et de tuer des loups selon des règles qui devront être déterminées nationalement. Des loups peuvent en effet, par exemple, pour l'instant déjà être tués hein, dans des conditions très précises, notamment pour protéger des troupeaux. Une disposition est notamment mise en œuvre dans ce sens en France via des dérogations à la réglementation. Dans cette proposition, l'Union européenne, qui assure se fonder sur une analyse approfondie du statut, fait état d'une population de loups qui grandit, qui atteindrait les 20 300 individus en 2023, situés la plupart dans les Balkans, les pays nordiques, l'Italie et l'Espagne. L'expansion de cette espèce serait donc à l'origine de difficultés de coexistence avec les activités humaines, notamment en raison des dommages causés au bétail, qui ont atteint des niveaux importants. De nombreux agriculteurs français dénoncent en effet depuis le début de ce mois-ci des attaques sur leurs bêtes et une inaction de l'État concernant l'autorisation des tirs de défense. Ce potentiel déclassement du loup pour l'Observatoire du loup en tout cas n'aurait aucune conséquence positive sur le bétail des éleveurs en France et en Europe. Ça c'est l'avis donc de Jean-Luc Valéry, le cofondateur de l'Observatoire du loup, qui lui vise plutôt pour une protection de l'espèce et une cohabitation. Le risque de rétrograder ce statut est de fragiliser, voire de provoquer le déclin de l'espèce en Europe, alerte également M. Laurence, qui lui rappelle que le loup avait entièrement disparu de l'Hexagone il y a un siècle. Et enfin, donc toujours pour l'argumentaire, on va dire, des pro-loups, pour eux, déstabiliser l'organisation sociale très précise que constitue une meute par ces tirs sporadiques risquerait de créer des comportements plus désordonnés de celle-ci envers les troupeaux. Et pour eux, il n'y a qu'une solution viable, c'est laisser les élus gérer la situation à l'échelle régionale, voire locale, et donc que les élus implantent sur leur territoire des personnes formées sur le sujet, des personnes qui puissent notamment renseigner les éleveurs inquiets au sujet de potentielles attaques. Ainsi, dans une lettre adressée fin novembre au secrétaire de la Convention de Berne, Michael Poutier, et plusieurs, donc ça c'est le secrétaire pardon, de la Convention, Michael Poutier. Dans cette lettre, plusieurs ONG pointent cette proposition qu'ils considèrent comme illégale et qui manque de justification scientifique et qui viole les principes de participation démocratique. En affaiblissant l'espèce qui est le sommet du système écologique européen, on risque de fragiliser l'ensemble de la santé déjà assez peu robuste de cet écosystème. Toujours donc les propos de porte-parole de WWF. L'estimation du nombre de loups en France, on en est à peine plus de 1000 individus pour les derniers chiffres qui sont de 2023, soit une baisse de 9% sur un an. Et c'est environ 20% de cette population qui est abattue chaque année. Le loup reste donc bien présent, notamment dans les départements ici, de l'Hérault et du Gard, exclusivement dans 4 zones rurales reculées au nord, mais sans l'existence d'une meute. C'est en tout cas ce que confirme et ce qui a été révélé lors du comité loup qui a eu lieu, c'était à la fin du mois d'octobre, le lundi 28 octobre à Montpellier, autour du préfet de l'Hérault, François-Xavier Laux. Pour ce qui est de l'Hérault, pour ce qui est de la France, pardon, le plafond de prélèvement a été fixé à 209, hein, je vous disais 20% de l'estimation nationale. Ainsi, en 2024, 174 individus ont d'ores et déjà été abattus. Et pour l'Hérault, cette année, l'indemnisation pour les victimes s'est levée à un total de 10 000 euros, sachant que la plus grosse dépense constitue à l'accompagnement des éleveurs pour avoir des patous, des chiens de défense de troupeaux, et pour installer les clôtures. Pour l'Hérault, par exemple, ça a représenté 66 000 euros pour 2024, expliquait le sous-préfet de l'ODEV. Et il précise que cela concernait notamment l'achat, les soins et l'éducation canine, donc toujours pour ces fameux patous. Si l'amendement à la Convention de Berne est donc adopté aujourd'hui, il entrera en vigueur dans les pays qui ont voté en sa faveur 3 mois plus tard. Et au contraire, si un tiers des pays formulent des objections, la proposition sera annulée. À noter quand même, et c'est un peu cocasse, que la Convention de Berne est composée de 46 États membres du Conseil de l'Europe, exception faite de Saint-Marin, et en plus de tout ça, 4 États africains, je l'ai appris, le Burkina Faso, le Maroc, le Sénégal et la Tunisie. Je ne sais pas s'ils auront un avis à donner, eux, sur la question du loup. Je vous emmène maintenant au fond des océans avec un sursis pour les abysses arctiques, puisque la Norvège ne va pas délivrer de permis de prospection minière sous-marine dans ses eaux pour l'année prochaine. Cette victoire a été arrachée par le parti de la gauche socialiste, les sociaux-démocrates, c'était ce dimanche 1er décembre, au cours des négociations avec le gouvernement de centre-gauche qui est lui plutôt favorable à ces mines. En clair, donc, le petit parti de gauche a accepté de voter le budget en échange d'un certain nombre de concessions de la part du gouvernement, notamment sur ce sujet brûlant des mines sous-marines. Voilà, des concessions, des compromis, ça vous rappelle peut-être quelque chose. C'est le Premier ministre Jonas Stor qui a souligné que la décision ne signifiait pas la fin des projets d'extraction sur un avenir lointain, mais que c'était juste un report. Pour lui, donc, l'exploitation sous-marine permettrait de ne pas dépendre de pays comme la Chine, notamment pour ce qui est toujours de la fourniture en minéraux essentiels à la transition énergétique, comme le zinc ou le cuivre. Le 9 janvier dernier, le Parlement norvégien avait d'abord autorisé donc cette exploration minière d'une partie de ses fonds marins. Pour l'instant, simples missions de recherche qui sont nécessaires avant toute extraction industrielle. Mais la zone visée, qui s'étend sur une surface à peu près équivalente à celle du Royaume-Uni, pourrait être considérablement et irréversiblement endommagée si une exploitation industrielle avait lieu à la suite de ces explorations. Malgré les objections des scientifiques, d'ONG et de l'Union européenne, Oslo comptait en effet ensuite attribuer ses premiers permis d'exploration minière pour 2025, ce qui en aurait fait l'un des tout premiers pays au monde à exploiter ces fameux gisements.
Non mais n'importe quoi, non mais...
On part maintenant au Moyen-Orient, où ça remue dans tous les sens, et je vous emmène voir un petit peu ce qui se passe dans la zone du nord de la Syrie, donc en Syrie, mais du côté de la Turquie. Les forces pro-turques ont d'ailleurs pris une ville stratégique qui était tenue par les Kurdes, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Cet assaut est intervenu alors qu'une coalition de rebelles, qui était dirigée par principalement des islamistes, sous l'acronyme HTS, avait pris le contrôle d'Alep, la deuxième ville du pays. Et si les forces kurdes ne sont pas les ennemis de HTS, donc Hayat Tahrir al-Sham, le fameux groupe qui mène les assauts contre le régime syrien et ses alliés, eh bien les Kurdes le sont malgré tout ennemis des factions pro-turques qui, elles, participent au combat. Dans une Syrie donc morcelée depuis la guerre de 2011, les groupes rebelles pro-turcs ont pris ce dimanche 1er décembre la ville de Tal Rifat, dans le nord du pays, une ville stratégique puisqu'elle se trouve dans une enclave contrôlée par les forces kurdes, mais entourée de régions tenues par des groupes pro-turcs et aussi l'armée syrienne. D'ailleurs, le président turc Recep Tayyip Erdogan avait menacé à plusieurs reprises une offensive contre cette enclave par le passé. Et l'assaut intervient donc alors qu'a eu lieu cette attaque d'une coalition de rebelles qui a infligé un coup dur au régime de Bachar el-Assad, qui a perdu notamment ce dimanche le contrôle d'Alep, soit la deuxième ville du pays, et ce pour la première fois depuis le début de la guerre. Les forces pro-turques ont également lancé samedi dernier une offensive, d'ailleurs contre les forces gouvernementales et les forces kurdes de la province d'Alep. Des forces qui ont pu prendre dimanche donc le contrôle de deux localités, Safire et Kanaser, on est au sud-est d'Alep, ainsi que de l'aéroport militaire de Kweires. Et l'ONG, donc l'Observatoire syrien des droits de l'homme, avertit que environ 200 000 Kurdes syriens du nord de la province d'Alep se retrouvent donc ainsi assiégés par des factions pro-turques, mais donc hostiles aux Kurdes. Ces civils sont pris en étau dans les zones disputées et ils craignent pour leur sécurité. On peut lire par exemple dans les colonnes de Libération l'interview de Jamil, qui redoute lui carrément de subir un massacre. Et ça fait maintenant plus de 48 heures qu'il tentait, ainsi que donc 200 000 autres civils, de fuir son canton, le canton de Sheba, une petite exclave située au nord d'Alep, qui était pour l'instant contrôlée par les FDS, les forces démocratiques syriennes, donc à dominante kurde, qui tiennent plutôt le nord-est du pays. Et on pouvait observer une immense colonne de 20 000 voitures, tracteurs ou camions, s'étirant sur plusieurs kilomètres près du village de Fafin, mais une colonne qui n'avance pas puisque les routes sont bloquées et que rien ne bouge. Les forces kurdes constituent donc la principale composante des FDS, les forces démocratiques syriennes, qui contrôlent toujours de vastes pans du nord-est de la Syrie et qui sont soutenues par les États-Unis, notamment dans le rôle qu'elles ont eu dans les guerres contre l'État islamique. Dans un communiqué, les FDS ont accusé la Turquie d'être derrière cette offensive qui les a visés, en affirmant que la Turquie cherchait à diviser la Syrie. Et c'est ainsi qu'on a pu voir à nouveau flotter le drapeau des YPG, les YPG, drapeau jaune et rouge des unités de protection du peuple, qui est la principale force armée des autorités kurdes au nord-est de la Syrie, flotter sur la place de l'horloge de la ville de Raqqa. Il n'y était pas le 1er décembre. Un signe donc parmi d'autres que les Kurdes syriens se préparent une nouvelle fois à la guerre. Pour revenir à cette offensive qui a eu lieu contre le régime syrien, elle est baptisée « En finir avec l'oppression » et elle remporte donc victoire après victoire contre les lignes de défense des forces loyalistes. C'est une très large coalition donc, qui affronte à présent le régime syrien, dirigé et principalement contrôlé par les HTS, donc Hayat Tahrir al-Sham, dont le nom du chef est pour l'instant gardé secret. Une formation donc djihadiste salafiste, voilà, qui veut mettre fin à l'oppression, c'est cocasse, qui s'appelait avant Jabhat al-Nosra, longtemps affilié à Al-Qaïda donc, mais affirmant avoir rompu ses liens avec toute l'organisation d'Al-Qaïda et éliminé ses chefs dans la région, donc une certaine indépendance. À ses côtés figurent certaines organisations proches de ou contrôlées par la Turquie. Du fait de l'ampleur de cette opération, il ne fait guère de doute en tout cas que l'offensive rebelle a été préparée au moins pendant plusieurs mois. Ce qui surprend les observateurs, c'est que ni les services secrets syriens, qui sont pourtant partout et tout le temps, ni Moscou ni Téhéran n'en aient eu vent avant. Par exemple, Moscou a vendredi vertement reproché au régime syrien de n'avoir rien fait et de mettre de l'ordre plus vite. Et du côté de l'Iran, on a dénoncé un complot fomenté encore une fois par Washington et les États-Unis. Quant à Ankara, donc la Turquie qui contrôle indirectement l'enclave d'Idlib, notamment avec ses formations pro-turques, eh bien, le gouvernement turc a sans nul doute donné l'aval à l'offensive qui survient alors qu'une tentative de rapprochement entre la Turquie et la Syrie vient d'échouer. La Syrie réclamant depuis des mois le retrait des troupes turques qui sont déployées dans le nord syrien le long de sa frontière. Pour un politiste et juriste observateur Firas Kontar, tout se déroule à une vitesse folle, les lignes de défense du régime syrien tombent les unes après les autres. On assiste à un effondrement de l'armée syrienne qui a abandonné sur place des centaines de blindés. Les soldats ne veulent pas mourir pour un tel régime qui les paye 20 dollars par mois. Quant aux combattants du Hezbollah, beaucoup ont été retirés de Syrie pour renforcer les unités qui se battaient au Liban, où d'ailleurs les plus aguerris ont souvent été tués. Ceux qui sont restés ne veulent plus se battre pour défendre un régime dont ils considèrent qu'il les a lâchés pendant la guerre contre Israël. Et oui, car à cela, il faut s'ajouter le fait qu'Israël a contribué à l'affaiblissement du Hezbollah en Syrie, notamment avec les frappes sur ses livraisons de matériel militaire en provenance de l'Iran via l'Irak. Et à chaque fois, Damas n'avait pas réagi. Donc voilà, redistribution des cartes en Syrie et peut-être une nouvelle fois, les forces kurdes qui vont se retrouver face à face, laissées quant à eux face aux djihadistes.
Enfin, c'est une longue histoire, mais je vous expliquerai tout ça.
On termine avec des nouvelles, des remous du côté de la presse française et de l'édition avec une mobilisation qui a visiblement payé chez le groupe Bayard Presse. En effet, dans un communiqué, la direction du groupe Bayard a indiqué qu'elle avait renoncé à embaucher Alban Durostu. Donc il devait être à sa tête. Alban Durostu, c'est l'ancien bras droit du milliardaire catholique conservateur Pierre-Édouard Sterrin. Et Bayard a indiqué également qu'elle allait revendre ses parts de l'école de journalisme ESJ Paris. De quoi donc ramener un peu de sérénité au sein des salariés de ce groupe de presse qui, bien que catholique, n'était pas donc aligné avec ses choix. Les salariés s'étaient mis en grève le 28 novembre pour protester donc contre ces décisions annoncées en début de semaine dernière. Ils redoutaient en effet une forme d'entrisme de l'extrême droite dans leur groupe. Un groupe qui, si je vous le disais, était affiché catholique, n'en est pas moins propriété de la congrégation des assomptionnistes, pardon, qui eux ont toujours prôné la tolérance et l'ouverture d'esprit. Si on revient donc sur la nomination d'Alban Durostu, jusqu'à cet été, il dirigeait le Fonds du bien commun. C'est une organisation philanthropique, financée donc par le milliardaire Pierre-Édouard Sterrin. et il aurait aussi participé au lancement de Périclès, un projet politique du même Sterrin, qui vise notamment à mener la bataille des idées au service de valeurs identitaires, conservatrices et libérales. Pour ce qui est de l'ESJ, le groupe Bayard a indiqué donc qu'il quittait le tour de table de cette école de journalistes en revendant sa participation. En effet, en difficulté financière, cette école de journalistes, qui est d'ailleurs non reconnue par la profession, vient d'être reprise par plusieurs milliardaires propriétaires de médias, ainsi que comme Rodolphe Sadé, Bernard Arnault ou l'inévitable Vincent Bolloré. Donc plus de groupe Bayard dans ce rachat. La décision devra toutefois être confirmée par le conseil de surveillance, précise Bayard, qui indique ainsi qu'un plan stratégique sera proposé dans les 6 prochains mois. Et ce conseil de surveillance, lui, se réunira demain dans l'après-midi. À suivre, donc.
D'accord. Et comment vous appelez un pays qui a comme président un militaire avec les pleins pouvoirs, une police secrète, une seule chaîne de télévision et dont toute l'information est contrôlée par l'État ?
J'appelle ça la France, mademoiselle. Et pas n'importe laquelle. La France du général de Gaulle.
Et voilà, les amis, c'est là-dessus qu'on se quitte. Rendez-vous jeudi pour d'autres nouvelles du monde. D'ici là, portez-vous bien, couvrez-vous bien, et puis, voilà, écoutez de la musique aussi.
Monsieur, des informations, il y en a plein, hein. Par exemple, bon, il y en a plein, hein. Les informations, ça manque pas, mais il faut choisir, hein, pour les dire.
Des nouvelles du monde.
Revue de presse, de médias libres ou pas, interviews, communiqués. Les nouvelles du monde, c'est avant tout un regard critique sur l'actualité, du local à l'international.
Mais que se passe-t-il?
Les nouvelles du monde, c'est tous les mardis et jeudis à 12h30 sur Radio Escapade, rediffusion à 19h30. Et pour y apporter votre contribution, info@radioescapades.org.